Avoir le frère Stéphane Loyodis avec nous. Et hier, ils ont pris la route pour venir et long de la route, la voiture a lâché. L'embrayage n'a pas voulu aller plus loin, donc dépanneuse. Et donc de hier, depuis à peu près 3h30 à 6h, on n'a pas arrêté de s'envoyer des messages et de s'appeler pour savoir où ils en étaient. On a essayé de trouver des solutions. Et finalement, la solution qui a été proposée par l'assurance, c'était de les ramener en taxi à nouveau jusqu'à Digne-les-Bains. Parce qu'autrement, le problème est dit, il leur a proposé de prendre le train. Et le frère dit, vous êtes bien gentil, mais il n'y a pas de train à Digne-les-Bains. Ah, bon, d'accord. Ben écoutez, voilà, donc bon. Ils sont arrivés en toute sécurité, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Dieu sait pourquoi, Dieu sait comment, ça, il n'y a pas de souci. Notre frère est en formation, on aura l'occasion de l'inviter ultérieurement. Ça sera rien que la troisième fois qu'on essaie d'organiser pour qu'il vienne. Mais voilà, en tous les cas, Dieu connaît toutes choses. Amen. Et hier matin, à 5h, je me réveille avec un mot. Et je dis, Seigneur, c'est bien. Mais c'est pas à moi de prêcher demain. Et ce mot ne me lâchait pas. Et il y a plein de textes qui sont venus dans mon cœur. Et moi, je disais, Seigneur, oui, d'accord, j'ai pris note. Promis, je vais préparer un message. Et hier matin, donc, je descends dans le bureau, je commence à préparer des coups de téléphone. Vous savez, ces journées où vous dites que tout part un peu de manière étrange. Et je continue à être travaillé par ce mot. Le mot est fondement. Fondement. D'accord, Seigneur. Alors, il y a plusieurs textes qui parlent du fondement. Et hier après-midi, quand notre frère il m'a téléphoné pour me dire qu'il avait cette panne de voiture, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. C'est bon. Allez. Je sais déjà comment tu vas régler les choses. Merci de m'avoir averti avant. Hein, ça aurait été... Mais Dieu sait toutes choses. Ce matin, moi j'aimerais avec vous traiter ce thème du fondement. Et on va analyser plusieurs textes de la parole de Dieu qui nous amènent finalement à nous faire comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous enseigner encore par ce mot. Ésaïe 28, verset 16, c'est le prophète Ésaïe qui parlera de ce fondement, non pas comme tout simplement un élément d'une construction. Le fondement, en été, c'était une pierre angulaire, une pierre carrée, qui était placée au centre de l'édifice. Et en effet, tout l'édifice reposait sur cette pierre. C'était, à quelque part, le point central qui devait tout soutenir. Donc, il fallait quelque chose qui tienne la route. Non pas une pierre friable, non pas une pierre qui pouvait rapidement s'user par le temps, voire être brisée par le poids de la responsabilité, mais une pierre qui tienne le coup. Et Ésaïe parlera de cette pierre en nous indiquant Jésus. Ésaïe chapitre 28, j'ai mis 28 verset 16, mais on va lire aussi le 17. Mais c'était pas prévu, mais je pense que c'est bien de le citer parce qu'on voit la manière où Dieu est en train de parler au peuple juif qui, en effet, s'est détourné de Dieu, ils se sont tournés vers des idoles, même pour renvoyer la mort, pour que la mort n'ait pas d'effet sur eux. Et Dieu lui dit, mais vous allez où? Alors, vous savez, encore aujourd'hui, on essaye de reculer la mort. Est-ce que Dieu est contre le fait de se soigner? Non, Dieu n'est pas contre. Mais de là à faire un pacte avec l'ennemi pour reculer la mort, ça par contre c'est autre chose, n'est-ce pas? Alors voici ce que le prophète Ésaïe dira au peuple, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Me voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. La grêle emportera le refuge du mensonge et les eaux déborderont dans l'abri de la fausseté. Amen. Wow. Alors vous voyez bien que la parole que Dieu va communiquer à son peuple par le prophète Ésaïe était un changement radical et une transformation, puisque Dieu est en train de dire à son peuple « me voici ». C'est Dieu qui agit. Le peuple s'est détourné et Dieu va faire quelque chose. Parce que par le fait que ce peuple s'est détourné, par le fait que les hommes se sont détournés, si Dieu n'avait pas mis en œuvre le salut par Jésus-Christ, il n'y aurait aucune possibilité pour aucun d'entre nous d'être sauvé. Et moi, je voudrais dire, Seigneur, merci parce que tu es ici. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu nous as pas abandonnés. Mais tu as voulu renverser les raisonnements, renverser, je dirais, le courant de ce monde. Et cela me donne confiance parce que je sais que quoi qu'il arrive, Dieu est là. Amen. Alors je voudrais t'encourager, mon frère, ma sœur, à dire à ton voisin, Dieu est là. Prends courage. Prends courage, Dieu est là. Peut-être il y a des choses pour toi qui sont devenues trop lourdes, trop difficiles à vivre, mais Dieu est là. Il y a des choses qui viennent et qui finalement te mettent en souffrance parce que tu vois les choses qui sont perturbantes, parce que tu vois des choses qui ne tiennent pas compte de la vérité, de la justice. Mais je voudrais te dire encore ce matin, Dieu est là. Et il a prévu de régler les choses. Mais ce matin, j'aimerais avec vous méditer sur le fondement. Il est question d'avoir posé, il dit, j'ai mis un fondement en Sion. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre solidement posée. Et il y a une promesse. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. En effet, quand tu es sur cette pierre qui est posée, même s'il y a la tempête, même s'il y a le vent, même s'il y a des choses que Dieu est en train de faire, qui est en train de bouleverser le monde, d'accord? Les eaux qui débordent, si même il y a des choses qui viennent détruire, toi tu ne bougeras pas parce que tu dis ici, je suis en sécurité. Et ce matin, je voudrais t'encourager à rester attaché et ancré en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut que en Jésus-Christ. Amen. Me voici. J'ai mis un fondement. Dieu pose la pierre comme fondement d'un édifice qu'il bâtit pour remplacer celui qui va s'écrouler par l'effet de l'injustice et du péché des hommes. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui rafistole les choses. Dieu fait toutes choses nouvelles. On devient maintenant très tendance, c'est très tendance le recyclage. C'est vrai ou pas? La seule chose que Dieu veut recycler, c'est ta vie. T'étais perdu et il te transforme. Mais pour le reste, ce monde qui est pas en perdition, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un moment où il va se consommer. Et Dieu a prévu, nouveaux cieux et nouvelle terre. Parce que ce monde est souillé par le péché, souillé par l'injustice, souillé par le sang, le meurtre, tout ce qu'on veut, tout a souillé cette terre. La parole de Dieu nous dit même que le monde aspire à la révélation des fils de Dieu. Amen. Ce monde est en souffrance et il aspire à un changement radical. Or, la parole de Dieu nous dit que Dieu est venu poser un fondement. C'est lui qui fait une œuvre. Rappelez-vous du texte de Jean chapitre 2 verset 19 à 22, c'est Jésus qui parle suite à l'échange qu'il est en train d'avoir avec ses disciples, qui dit « Seigneur, regarde ce temple, regarde !» Il dira « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. » Et les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en trois jours tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Le Seigneur nous dit des choses par avance. Et nous, parfois, on a du mal à comprendre la logique de Dieu parce qu'on se dit, comment est-il possible un bâtiment en trois jours? Moi, j'aimerais bien trouver une entreprise de construction qui, en trois jours, vous sort un bâtiment qu'il faut 40 ans. À mon avis, ils doivent avoir du travail qui, hein, à mettre dans. Et la parole de Dieu nous montre que Dieu est capable de faire cela, mais c'est pas d'un bâtiment de pierre, c'est pas une question, c'est une question de ce que Christ se préparait, lui, à faire pour nous à la croix. C'est pas un temple construit de main d'homme, mais c'est le temple qui est Jésus-Christ, celui qui est le souverain sacrificateur, celui qui doit être celui qui règne dans ton cœur et dans le mien, celui qui a le droit de bouger dans ta vie, dans ton âme, de visiter toutes les pièces de ton cœur. Toutes. Il n'y a pas de petites pièces fermées, il n'y a pas de petits coins en disant « Seigneur, ça, cette petite parcelle, tu vois, je la garde pour moi. Seigneur, je garde, il y a quelques trucs dans le placard que je voudrais pas trop montrer. Seigneur, il faut quand même que j'aie une vie. » C'est quoi la vie ? Sans Christ, c'est quoi la vie ? Sans Christ, il n'y a pas de vie. Sans Christ, nous sommes morts. Donc, est-ce que le Seigneur a la possibilité de visiter toutes les pièces de notre cœur ? Un jour, on habitait en Alsace et on réfléchissait à l'achat d'une maison et une agence, il nous propose de visiter un bien et donc on y va. Et il nous dit, écoutez, voilà, vous pouvez pas visiter la maison que vous voulez acheter, mais je vous fais visiter celle du voisin. Donc on va visiter la maison du voisin. Je dis, mais moi je veux voir la maison. Non, mais on ne peut pas, le propriétaire il n'est pas disponible. Je dis, ben moi je ne suis pas disponible à acheter comme ça. Et je regarde par la fenêtre et je vois dans le salon un trou béant dans le sol. Je ne sais pas si le monsieur s'était lancé à faire des fouilles archéologiques. Mais c'était vraiment un truc énorme. Mais il m'a dit, il faut pas regarder ça. Vous devez regarder ce que vous avez vu et vous pouvez vous dire que vous allez pouvoir faire ça. J'ai dit, juste entre ça et ça, il y a un paquet d'argent, un paquet de travail, et ici, il n'y a pas écrit pigeon. Et vous voudriez la réponse pour quand ? Mais là, maintenant, je dis, mais bien sûr ! On s'est regardé avec Elisabeth, on est remonté dans notre voiture, on est parti, on a dit, Seigneur, faut tout voir et tout entendre. Frères et sœurs, Dieu ne nous propose pas de vivre ça. Il ne nous cache rien. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, c'est clairement écrit dans sa parole. Lis-la. Et plus tu la liras, plus tu te diras, Seigneur, je n'avais pas vu ce point pour moi. Mais là, Seigneur, ce matin, je veux saisir cette parole pour moi, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas te cacher la réalité, parce que quoi que nous puissions faire, on ne peut rien cacher à Dieu, hein, que ça soit clair. Hein ? Vous êtes d'accord ? Il n'est pas question de cacher la misère derrière un beau papier de religiosité. Hein, vous savez, quand on décolle le papier, après derrière, on voit... On gratte la peinture et il y a la rouille. Hein ? Le Seigneur ne veut pas ça, il connaît très bien, il sait comment vérifier notre cœur, sonder nos vies. Et il est question pour nous, finalement, de croire à Jésus, à sa parole, et de la vivre. Et il dira que ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Deux choses, ils ont dû croire, la parole et les paroles de Jésus. N'oublions pas que la parole est un fondement biblique. Dieu créa le monde par la parole. Et Jésus est la parole faite chair. La parole, pour nous, la Bible, c'est le fondement sur lequel nous pouvons nous reposer. Ce que Dieu dit, Dieu fait. Christ est non seulement le fondement d'un salut au niveau de la spirituel, mais aussi physique. Ésaïe chapitre 7, verset 14, il dira « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte et l'enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel » qui veut dire « Dieu avec nous ». Jésus est venu pour guérir, Jésus est venu pour libérer, Jésus est venu pour relever, Jésus est venu pour sauver, Jésus est venu pour pardonner. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, car ces choses ont un temps et un moment qui est prévu. Mais entre ce moment et aujourd'hui, nous avons encore un petit temps qui nous permet finalement de dire, Seigneur, encore ce matin, je peux venir parce que tu es un fondement unique et irremplaçable. Pardon, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, qui nous dira, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors si ce matin tu commences à mettre ta foi dans d'autres dieux, en te disant en tous les cas, peu importe le nom, on sera sauvé quand même, je veux te dire que c'est une erreur, c'est pas une question ni de religion, ni de vouloir appeler son Dieu comme on a envie. Un jour quelqu'un m'a dit, vous savez pasteur, j'ai été baptisé catholique, d'accord, je me suis fait baptiser orthodoxe. Je me suis fait baptiser témoin de Jéhovah. Est-ce que vous pouvez me baptiser évangélique? J'ai dit, vous avez plein de passeports, mais aucune patrie. J'ai dit, avec les papiers que vous avez, vous n'allez nulle part. J'ai dit, c'est pas question d'avoir la multinationalité religieuse qui va vous sauver, mais c'est le fait de croire en Jésus, le Fils de Dieu. Et ce jour-là, dans la discussion avec cette femme, Dieu me montre des choses qu'elle essayait de cacher. Et quand j'ai commencé à lui dire, voilà ce que le Seigneur me montre, cette femme, elle commence à se décomposer, à pleurer, et dit, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai dit, sauf que quand vous vous placez devant le Dieu qui sait tout, ben, il faut vous attendre quand même à qu'il dévoile ce que vous cachez. Et ce que vous cachez n'est pas quelque chose dont vous devriez être fier. Alors je ne l'ai plus revue, cette dame. Je continue de prier pour elle parce qu'elle a besoin du salut. Mais elle a besoin de prendre un seul passeport, une seule nationalité, n'est-ce pas, qui est en Jésus-Christ. Le fondement posé par Dieu a une garantie face aux épreuves. Luc chapitre 6, verset 48, il dira, et c'est Jésus qui le dit, « Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, il creuse profondément et pose le fondement sur le roc. » N'est-ce pas? Une inondation est venue et le torrent s'est roué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Si tu bâtis ta vie, ton cœur, ton âme, ta foi sur le roc qui est Jésus-Christ, peu importe les intempéries, peu importe les cataclysmes, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, tu te tiendras debout parce que tu t'es bâti sur celui qui est le rocher des siècles. Sur lui, rien ne pourra toucher. Lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, Dieu est celui qui nous protège. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas les difficultés. Regardez dans ce texte de Luc 6, il parle aussi de la maison bâtie sur le sable. Elle va vivre les mêmes choses. Ce qui va faire la différence, c'est le résultat final. Et vous savez, construire sur le sable et construire sur le roc, c'est pas le même prix. Hein. Sur le sable, vous y allez, vous faites un petit lissage du sable et on y va. Sauf qu'avec le temps, votre maison s'enfonce. Quand on était en Italie avec Elisabeth, on faisait des réunions dans une église à 150 km d'où on habitait. Donc tous les dimanches et tous les jeudis. On faisait les 300 kilomètres aller-retour et on passait au long de la mer et il y avait une maison qui avait été construite sur la plage. Mais je pense que ça devait être difficile de manger la soupe puisque l'assiette, elle était fortement inclinée vers où la soupe, elle allait glisser. Et on s'est dit, mais quelle folie de construire une si belle maison sur un si mauvais terrain. On peut finalement atteler toute notre vie à construire quelque chose de bien, de beau, de fort. Mais si le fondement il n'est pas solide, ta maison ne tiendra pas. Tu as besoin, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et en toutes les épreuves, le Seigneur sera là. Le fondement, lui, il a fait ses preuves, mais ta vie, elle doit faire les siennes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 14, il est dit « Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Alors le tout, c'est pas de construire, mais c'est de bien choisir les matériaux. C'est pas à Dieu de nous prouver que lui, il est le fondement. Lui, le fondement, même à l'épreuve du feu, il tiendra. Vous avez déjà vu des images peut-être du Grand Canyon. Vous avez vu peut-être des images du Mont Blanc. Oui, ça c'est plus... Peut-être vous y êtes même allé. Oui. Mais quand vous êtes là-bas, vous dites, lui, il existe depuis des millénaires. Et moi, je suis une petite poussière avec un temps de vie très limité. Je partirai, la montagne, elle sera encore là, non ? Elle a prouvé qu'elle est capable de tenir. Et pourtant, combien de conflits ce monde a connu, combien de guerres ce monde a connu, combien de pestilences ce monde a connu, combien d'épreuves ce monde a connu. Et la montagne, elle est toujours là. Moi, je veux vous dire ce matin, mes frères et sœurs, comprenez bien, ce n'est pas à Christ de se prouver à nous, ce n'est pas à Dieu de se prouver s'il est capable de ceci ou de cela, c'est à nous de faire preuve de sagesse, de dire comment je veux bâtir ma vie sur Dieu. Est-ce que je vais choisir des matériaux qui vont tenir ou pas ? Parce que beaucoup de choses en dépendent. Dieu a posé un fondement qui est de qualité, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, et il dira solidement posée. Ça, ça ne bouge pas. Ça, ça ne bougera pas. Avez-vous déjà vécu un tremblement de terre ? Oui, non ? Ah, c'est rigolo. C'est rigolo si ça reste gentil. Ça peut l'être moins si ça continue à secouer dans tous les sens. Mais c'est sympa lorsque votre épouse est en train d'allaiter le petit et vous, vous êtes en train de dormir et elle vous dit « Arrête de faire bouger le lit !» Et je lui dis « T'inquiète pas, c'est juste un tremblement de terre. Dors. » « Pardon ? J'ai jamais vécu ça, moi !» Mais lorsque un tremblement de terre fait secouer votre maison comme il faut, vous avez intérêt à déguerpir aussi vite. Et vous cherchez un endroit où vous pouvez vous mettre en sécurité. Et si l'endroit où vous êtes, c'est du rocher, votre maison tiendra. On avait une station radio où on avait installé nos antennes sur un petit village de montagne. Et les maisons, elles étaient construites sur le rocher. Il n'y avait pas de carrelage par terre. C'était du rocher. Magnifique. Assez top. La dalle béton était déjà faite. Alors le sol, il n'était pas lisse, il y avait... Mais lorsque les tremblements de terre sont venus et que des maisons sont tombées à cause du tremblement de terre, sur ce village, les maisons, ils ont tenu. Parce que le rocher, tu ne le fais pas bouger comme ça. Cela nous enseigne, frères et sœurs, que si nous plaçons notre vie sur le rocher qui est solidement posé et que nous choisissons de fonder notre vie sur les règles que Dieu nous donne, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il était question finalement... que Dieu a donné une règle, non ? J'ai pris le droit comme règle et la justice comme niveau. Une règle et un niveau. Alors vérifiez votre propre niveau. Vous pourriez être surpris de voir que votre niveau y penche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah ben non, pasteur, c'est pas possible. Faites l'essai. Vous verrez, vous pourriez être étonné. Parce que parfois on prend une position dans un sens et la fois d'après... Tout au contraire, parce qu'on dit, on fait du cas par cas. Dieu me dit, j'ai donné une règle et un niveau. Et c'est selon cette règle et ce niveau que je dois bâtir. Alors, l'édifice que Dieu bâtit, puisqu'on a dit que Dieu a posé un fondement, c'est lui qui fonde une maison sur la justice, la vérité et la sainteté. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22, il dira « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors, si tu vois le Seigneur venir poser son niveau à côté de toi, c'est peut-être parce que tu penches d'un côté ou de l'autre. Et si tu sens qu'il te donne un petit coup pour te redresser, dis Seigneur, merci. Hein ? Vous êtes aperçu qu'avec l'âge, on a tendance un peu à ne plus être trop droit. Hein ? On a quelques soucis au niveau des yeux, on a quelques soucis au niveau de la dentition, on a quelques soucis au niveau des orteils, on a quelques soucis au niveau des genoux, on en a quelques... Je fais la liste. Hein ? Et on se rappelle du temps où on n'avait pas de soucis. Et on se disait, mais avant ? Mais ça, c'était avant. Avec Dieu, il n'y a que des matériaux éprouvés par lui. 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, n'est-ce pas ? Mais choisie et précieuse devant Dieu. » C'est Dieu qui choisit. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, et d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Il nous dit que nous avons été rejetés par les hommes, mais Dieu nous a choisis et il nous considère des pierres précieuses. Waouh ! Et là, je pourrais vous dire, regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui, t'es un vrai bijou. Hein ? Mais il y a encore des facettes à tailler. T'inquiète pas, Dieu va les tailler, les facettes. Peut-être encore c'est un bijou au stade brut. Mais t'inquiète pas, l'œuvre du Seigneur continue. Et on en est tous un peu au stade brut. Hein, Marc ? Mais n'oublions pas que ce même fondement, qui est pour nous la source, le centre de notre vie sur lequel nous nous bâtissons en Jésus-Christ pour être un temple à l'honneur de Dieu, cette même pierre est une pierre de jugement pour ceux qui refusent le Fils de Dieu. Luc chapitre 20, versets 17 et 18, il dira, « Mais jetons le regard sur eux. » Jésus dit, « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Le Seigneur, dans ce texte, dit finalement, ceux qui auront cru mais seront sauvés, mais ceux qui ont rejeté la pierre, ceux qui ont rejeté Jésus, ceux qui ont rejeté le plan de Dieu, finalement, à cause de ce rejet qu'ils ont eu envers le Fils de Dieu, c'est ce rejet-là qui va les accuser et finalement les condamner. Dernier texte. Puisque pour nous, il est question pour nous finalement de poser notre vie sur un fondement qui est éternel. J'aimerais lire avec vous ce dernier texte qui se trouve en 1 Pierre chapitre 2, les versets 6 à 9. Et ces différents textes nous ramènent toujours à cette réalité, à ce message sur le fait que Dieu a posé un fondement en Sion, une pierre d'angle. On le trouve dans l'Ancien Testament. On le trouve dans le Nouveau Testament. Quand vous lisez la description du temple de la Nouvelle Jérusalem, qui est assis au centre du temple ? C'est sa place. Hein ? Tout tourne autour de Jésus. Qui va ouvrir les livres où sont écrits les noms de ceux qui sont sauvés ? Personne n'a le droit. Jean qui va être amené par l'Esprit à voir cette vision, à un moment, il entendra que personne ne peut ouvrir ce livre. Et il commence à pleurer. Et celui qui l'accompagne, celui qui lui décrit, celui qui lui permet de comprendre sa vision, il dira, ne pleure pas. Il y en a un qui a le droit. C'est l'agneau de Dieu. Et là, c'est la grande fête. Quel bonheur pour nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Quel bonheur pour nous de voir notre nom inscrit sur ce livre. Mais il est question pour nous de faire un choix aujourd'hui. C'est pas last minute. Vous connaissez le processus last minute, hein? Tu décides de partir et tu vas chercher un billet à la dernière minute. Et après, tu dis je vais où? Je sais pas. Là, je saute sur l'occasion et je pars dans telle direction. Ça, c'est un voyage que le Seigneur a commencé à préparer depuis longtemps. Jésus dira, je vais vous préparer un lieu. Non? Je vais vous bâtir une maison. Qui veut une maison dans le ciel? Combien de pièces? 1 Moi, sincèrement, ce n'est pas la couleur qui m'intéresse. C'est juste l'adresse. Hein? Adresse. Après, si Dieu m'a prévu un petit fleuve avec des poissons pour pouvoir de temps en temps lancer la ligne, je ne sais pas. Hein? Qu'on puisse s'inviter les uns les autres, prendre un petit café céleste. Ah ben oui, moi je demande au Seigneur que je puisse quand même ramener ma machine à café. Hein? Blague à part. Ce qui est important, c'est ce que ce texte va encore nous révéler. Car il y a dans l'Écriture, voici, je pose en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confondu. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils y achoppent en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. La grande erreur de l'humanité, c'est de désobéir à la parole. C'est de refuser Jésus, de refuser le Fils de Dieu, de refuser le salut qui nous est proposé, qui nous est offert par la grâce. Mais il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et là on dit, amen. Sauf que si on analyse bien, il y a du boulot, hein. Parce que le tout, ce n'est pas de dire, Seigneur, je crois en ta parole, en tous les cas, une bonne partie. Parce qu'il y a des textes, Seigneur, j'y crois pas. Peut-être tu ne les comprends pas, comme moi non plus, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas y croire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment Dieu va faire, que Dieu ne va pas le faire. Je vous rappelle que lorsque... les prophètes ont commencé à parler de la reconnaissance, l'établissement du royaume d'Israël en un jour, puisque Dieu a donné cette parole. Beaucoup se sont dit, ça y est, ils ont perdu la lumière aux étages. Hein, c'est le moment de trouver un hôpital psychiatrique. Mais dans la réalité, qu'est-ce que Dieu a fait? En un jour. Comme Dieu l'a dit, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alors, ce que tu ne comprends pas maintenant, dis-toi que Dieu est capable de te le faire comprendre. Ça va prendre un peu de temps parce qu'on est un peu dur de la feuille. Mais Dieu va le faire. Amen. Les promesses que Dieu fait dans sa parole, elles sont pour toi et pour moi aujourd'hui. Amen. Mais il y en a que nous, on n'a même pas vu. Il y a des choses qu'on n'a même pas réalisées. Je pense qu'on fait tous cette expérience de lire et relire certains textes et de se dire, mais là, il y a un truc que je n'avais pas vu avant. Comment est-il possible que je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas saisi? Parce que Dieu, à fur et à mesure, nous ouvre de plus en plus les yeux et l'esprit pour que nous puissions saisir ce que Dieu veut nous dire, pour que nous soyons préparés, pour que nous soyons un peuple, finalement, qui vit ce qu'il nous est demandé, puisque nous sommes appelés à être une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de Dieu. Nous devons annoncer des choses. Ce que les prophètes ont fait, ça ne s'est pas arrêté. Hein. On n'a pas question d'inventer des nouvelles prophéties, il n'y a pas besoin, mais juste de rappeler et de dire, vous voyez cette prophétie qui nous a été donnée dans le livre d'Ésaïe, de Jérémie ou de je ne sais pas qui, ben là, elle est en train de s'accomplir. Reconnaissez-le. Reconnaissez-le. Voyez-le, lisez-le. Et il est question pour nous d'être, sommes-nous honorés, de croire en le Seigneur. Qui se sent honoré de croire en Dieu? Si c'est un honneur, c'est aussi une responsabilité. Parce que ce qui doit être visible là, que toi et moi, nous soyons un peuple élu, ça veut dire choisi, un peuple à qui Dieu a conféré un sacerdoce royal, nous devons nous comporter comme des sacerdoces. Et ça commence par ta vie personnelle et ton foyer. Parce que si chez toi, tu n'es pas un sacerdoce, tu es quoi? Et si tu n'es pas un sacerdoce dans ton foyer, comment tu peux l'être dans l'Église? Comment tu peux l'être avec les uns et les autres? C'est une double vie, une double personnalité, voire plus, n'est-ce pas? Il est question d'une nation sainte. Et là, ça nous appelle tous à marcher dans la sainteté. Ça veut dire, comme on l'a dit ce matin dans notre temps de prière avant la réunion, de dire, Seigneur, viens éclairer ma vie s'il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, je veux que tu l'enlèves. Je ne peux pas, Seigneur, rentrer chez moi avec ça. Je ne peux pas, Seigneur, repartir chez moi à la maison avec ce sujet, avec ce problème, avec cette situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur ou dans ton couple ou avec tes enfants. Tu ne peux pas repartir de ce lieu en te disant, c'est pas grave. On va laisser le temps, ils vont plus y penser, ça va être réglé. Le silence ne règle rien. Il y a tellement de choses qui sont restées dans le silence et qu'on n'a jamais réglé. Et croyez-moi, lorsqu'on soulève le tapis, ça ressort. Ça s'appelle de l'omerta. Et ça, avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons, excusez-moi, équipés de tapis sous lesquels nous pouvons cacher toutes les choses. Mais Dieu veut que nous soyons une créature nouvelle, dans la sainteté, un peuple racheté. Ça veut dire que tu as été payé au prix le plus cher. Quel est le prix, quelle est la valeur que tu donnes à ta vie? Dites-moi. Si vous deviez estimer votre vie, qu'est-ce que vous donneriez comme estimation? Hein? Quelle estimation? 1000 euros, oh. 2000 euros, 10 000 euros, 100 000 euros, ou vous mettez la cote haute en disant comme ça personne ne peut payer. Hein? Mais moi je voudrais vous dire que le prix que Christ a payé pour nous, personne n'aurait pu le payer. C'est impensable. Et même si vous avez tous les sous de ce monde, vous ne pourrez pas acheter un jour d'éternité. Ça existe un jour d'éternité? Non. Mais même pas un millième d'éternité, même pas une seconde d'éternité. Niet. Tu ne peux pas. Parce que le seul prix qui peut finalement valider ton entrée dans le ciel, c'est le fait d'être passé par le rachat qui est dans le sang de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas être racheté si tu ne donnes pas ton cœur et ta vie à Jésus-Christ. Et cela ne dit pas « je vais le faire demain ». Moi, je voudrais te dire, fais-le là, maintenant, tout de suite. On ne sait pas ce qui peut se produire, comment les choses peuvent se faire, comment les choses peuvent se compliquer dans notre vie. Et il ira afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire qu'il n'est pas question de faire un retour en arrière. Donner son cœur à Jésus, ce n'est pas pour dire « Seigneur, un jour dans la lumière et six dans les ténèbres. Hein? » Le dimanche, on est un bon chrétien. Nickel. Même le patois de Canaan. « Seigneur, te bénisse. » Et après, à partir du lundi, et tous les mots qui sortent. Non? C'est ça? Vous imaginez si un jour, vous rencontrez quelqu'un qui était assis juste à côté de vous au culte. Et le dimanche, vous a entendu même prophétiser. Et le lundi, à la caisse du supermarché, c'est plus le même zèle qui est déployé. Eh ben là, attendez-vous à vous voir tapoter sur l'épaule en vous disant waouh, la prophétie de hier était pour les autres ou était pour toi? Non? Parce que croyez-moi, Dieu va nous le faire, ce truc. Faut pas croire qu'on va. Parce que le jugement de Dieu commence par sa maison. Et Dieu ne veut pas de gens qui lèvent la voix pour dire aux autres quoi faire s'ils ne le font pas. Si je pose ma main sur le rocher, je sais que ce rocher est sacré. Non? Et je sais que le choix de Dieu, c'est de bâtir avec de l'or, des pierres précieuses. J'ai besoin de me laisser affiner et j'ai besoin de laisser Dieu couper ce qui ne va pas dans ma vie. Sommes-nous prêts à le faire? Pour faire partie de cette maison que Dieu établit comme un temple dans lequel lui règne. Faire partie de la maison de l'Éternel. On va fermer nos yeux. Et encore ce matin, je voudrais nous engager tout simplement dans notre cœur, dans notre vie, de dire, Seigneur, viens encore tailler ce qui ne va pas dans ma vie, Seigneur. Seigneur, viens encore retrancher ce qui ne te plaît pas. Seigneur, aide-moi dans mes défaillances, dans mes faiblesses, dans mes fragilités. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, encore de changer dans mes propos, dans mes réflexions, dans mes mobiles, Seigneur. Seigneur, encore ce matin, viens, Seigneur, aide-moi à être, Seigneur, un mari aimant, une épouse aimante. Seigneur, encore ce matin, aide-moi à être un père et une mère qui prend soin de ses enfants et qui les éduque par l'exemple. Seigneur, aide-moi encore ce matin, Seigneur, à être cet homme, cette femme qui encourage son frère, qui encourage sa sœur qui passe par l'épreuve, qui relève celui qui est tombé. Non, non, pas le juger, le relever. Seigneur, donne-moi encore ce matin d'être ce sacrificateur qui vient et qui offre à l'Éternel un sacrifice de louange, selon la vision de Dieu. Seigneur, donne-moi encore ce matin, Seigneur. Donne-nous encore ce matin, Seigneur, d'être ce peuple racheté. Et Seigneur, là où il y a encore des imperfections, Seigneur, viens, Seigneur, viens enlever ce qui ne va pas, Seigneur. Ta parole est cette épée à double tranchant, Seigneur, alors qu'elle puisse trancher, Seigneur. Seigneur, nous voulons et nous proclamons que ta parole a autorité. Seigneur, tu dis que ta parole, Seigneur, elle est éprouvée et que celui qui se réfugie en elle, Seigneur, est sous ta protection. Il ne sera pas confus, il ne sera pas abandonné. Seigneur, nous voulons encore dire merci pour ta parole. Et ce que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui, tu nous l'expliqueras tout au long de notre chemin, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons dire à toute ta parole, Seigneur, nous croyons et nous confessons, Seigneur, que cette parole est la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous de régler notre vie, Seigneur, selon le niveau et la règle que toi tu nous as donnée. Que nous soyons un peuple qui marche dans la vérité et dans la justice, pour la gloire de ton nom, Père. Nous te remercions et nous te glorifions. Amen.